Venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons Alison au 3921. Bonsoir Alison.
Bonsoir Olivier.
Comment allez-vous Alison?
Bien.
Bon.
Bien, bien.
Alors, dites-moi ce qui vous amène.
Juste, je voudrais parler de mon combat de maman.
Oui.
J'ai été mariée pendant 10 ans avec un homme merveilleux et qui a fait un abandon de domicile du jour au lendemain.
Oui.
Et qui, en fait, où je me suis aperçue à partir de là, qui avait eu de la violence sur mon enfant pendant que moi, je ne le voyais pas. Je n'avais rien vu du tout.
D'accord.
Donc, mon petit garçon avait 8 ans quand mon futur ex-mari est parti. Et ça fait 2 ans et demi que je me bats devant la loi, devant les juges, devant les médiations, la police, pour expliquer ça. Mais en fait, personne ne nous croit avec mon fils. Donc, je perds de partout. Je perds au pénal.
Oui.
Je perds de partout. Mon fils n'y va pas. Je ne l'ai toujours pas. Et je risque de la prison si je ne le donne pas. Donc, je voulais parler de ce combat qui est assez exceptionnel en France, en fait, où on met maintenant les gens tous dans le même, dans la même caisse forcément manipulatrice.
Oui.
Et des fois, on n'est pas du tout manipulateur ou manipulatrice parce qu'il y a des mamans et des papas qui sont extraordinaires et vice-versa, puis d'autres qui ne sont pas bien du tout. Mais la loi décide que forcément, on est manipulateur parce qu'on a la garde.
J'en parlais encore avec un ami hier soir parce que je suis particulièrement touché de près. En tout cas, l'un de mes amis est touché par cette problématique. Et on en parlait encore hier soir. On parlait des moyens qui sont donnés à ces juges dans les affaires familiales, en tout cas des non-moyens qui leur sont offerts, puisqu'ils doivent se faire une idée avec très peu d'éléments, hein, finalement.
Non, des fois, ils ont beaucoup d'éléments,
alors,
mais ils ont très peu de temps. En fait, ils ont beaucoup d'éléments, parce que mon dossier est assez épais.
Oui.
Mais quand vous avez 50 pages et qu'en 20 minutes, ils vous jugent, avec 2 ans de mise à l'épreuve, parce que j'ai pas donné mon enfant qui a très peur de son papa, qui a reçu des coups et qui raconte ce qui s'est passé, et qu'on me dit vous avez 10 mois de prison avec sursis si vous le donnez pas le week-end prochain, je trouve que c'est... je pense que justement ils ont les moyens et ils arrivent peut-être... Alors moi je suis une guerrière donc je vais me battre, mais je pense que ça peut détruire des vies, des mamans ou des papas qui sont dans la même situation que moi et qui du coup n'arrivent pas à trouver de solution pour expliquer aux gens que son enfant, il a très peur et qu'il a reçu des choses. Et
c'est
pas l'enfant qui ment, mais c'est le papa ou la maman.
Mmh.
Et en fait, on n'écoute pas les enfants.
Alors, Alison, avant que l'on continue, j'aimerais que vous me racontiez un petit peu l'histoire, votre histoire et celle de votre fils. Hein. Dès que ça commence à se gâter, en fait. D'abord...
Ça a été la surprise quand il est parti avec un abandon de domicile. Je pensais que mon petit garçon allait mal le prendre.
Oui.
Et c'est là qu'il m'a dit « on va être enfin heureux ».
Alors, il est parti pourquoi, en plus?
Je ne sais pas. Je crois qu'il ne m'aimait plus, d'après ce que j'ai cru comprendre.
D'accord, d'accord.
Voilà.
Il est parti sans vous prévenir, du jour au lendemain?
Non, il y avait déjà 2-3 mois où il n'était pas bien. Il avait pris du recul et il voulait prendre un peu de temps, etc. Il est parti et il m'a dit avant que je rentre de vacances, je vais peut-être prendre mes affaires à la maison. Donc j'ai prévenu mon fils en rentrant que peut-être que les placards seront vides, ce qui s'est passé quand on est rentré. Et mon fils m'a répondu, super, je vais pouvoir prendre les placards de papa. Et on va être enfin heureux aujourd'hui, maman. Et là, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, j'étais heureuse, mais pas mon enfant.
D'accord.
Et
je
n'ai pas su tout de suite ce qui s'est passé parce que mon fils ne me l'a pas dit. Il a commencé à en parler à ses grands-parents, à des amis à moi, et puis à sa psychologue. Et en fait, moi, je suis un peu la dernière. Moi, j'ai vu des bleus, j'ai vu des traces, mais un petit garçon qui va à l'école et qui joue dans la cour de l'école et que la directrice nous dit « non, vous savez, ils n'arrêtent pas de jouer, ils tombent ». Moi, j'ai pas tilté. Et mon petit garçon me disait qu'en fait, son papa lui demandait de mentir. Parce que il était un peu énervé, qu'il était désolé de lui avoir fait ça et qu'il fallait surtout pas le dire à sa maman.
Mais alors, votre petit garçon a 8 ans.
Aujourd'hui, il en a 10 et demi.
D'accord.
Ça fait 2 ans et demi qu'on se bat.
Donc, il s'exprimait très très bien à 8 ans. En fait, il savait.
Oui.
Il vous disait dans quel cas il prenait des coups et quel type de coups par son père.
Oh ça a été des coups dans les cuisses hein, parce qu'il allait pas assez vite pour faire quelque chose.
Oui.
Ou alors mis sur les hanches aussi, et puis les bras mis tout habillé dans le bain, parce qu'il allait pas assez vite, où il s'est fait mal au menton, au coude, Il a été souvent pris par le col, mis directement dans l'eau, enfin dans la baignoire, sans l'eau, parce qu'il était énervé qu'il n'allait pas assez vite. Et moi, je les ai vus, toutes ces traces, mais moi, dans ma tête, un petit garçon qui me dit que c'est à l'école parce qu'il joue avec ses copains, puis comme je m'étais renseignée vis-à-vis de la directrice, je pensais que c'était vraiment ça.
Et son père, en fait, vous me disiez que vous étiez un peu tombé de surprise hein, quand
ah, complètement.
Complètement. Son père n'avait pas du tout un tempérament violent.
Il était très dur. C'était un papa assez absent parce qu'il travaillait beaucoup.
Ouais.
Il a été dur. Moi, je suis plutôt une maman cool, plutôt maman douceur et câlin. Lui, plus dur, mais jamais de coups devant moi. Sauf quelques fessées fortes où je me suis interposée. Mais sinon, pas plus que ça. Non, franchement, je suis très angoissée d'avoir rien vu du tout. En fait, je culpabilise beaucoup.
Et est-ce que vous pensez que les coups qu'il a donnés à votre fils avaient un rapport avec
son enfance, je pense.
Avec son enfant, pas avec vous, en fait.
Non, avec son enfance.
Avec son enfance, d'accord.
Il a eu une enfance catastrophique et il ne s'est jamais fait soigner. Et moi, je pense qu'à un moment dans sa vie, son enfance est une colonne vertébrale. Et si la colonne vertébrale, elle n'est pas apportée avec de l'amour et des tas de choses au niveau des parents, des grands-parents ou toutes les choses de la vie, ce n'est pas possible. À un moment, elle se casse.
Vous connaissiez vos beaux-parents ?
Alors, je ne connaissais pas le papa parce qu'il est mort.
Oui.
Mais je connaissais la maman qui est très froide, qui est très dure, et c'est elle qui a été très très dure avec mon futur ex-mari.
D'accord, c'est elle.
Oui.
Et vous avez eu l'occasion d'échanger un jour avec elle là-dessus?
Avec elle, non, parce qu'elle a eu une tumeur au cerveau tellement elle a menti à toute sa famille, je pense. Donc du coup, elle n'était plus en état de pouvoir discuter de quoi que ce soit.
Oui.
Et lui m'a dit qu'il s'était fait soigner une fois à l'âge de 20 ans, et on lui avait dit « vous êtes fort, vous n'en avez pas besoin ». C'est sûr qu'à 20 ans, on n'en a pas besoin. Quand on passe des études, qu'on essaye de commencer sa vie, on n'a pas forcément besoin d'une psychologue ou d'une thérapie. Mais après, je pense que ça peut abîmer notre vie de tous les jours quand on est plus âgé et ça remonte. C'est pas possible.
Ouais.
Si on a eu des vies, ça ne peut que remonter.
On va marquer une courte pause, si vous le voulez bien, Alissane, et on va évoquer, c'est certain, cette construction qui a été celle de votre ex-mari, parce qu'il est certain que, ayant pris des coups à cet âge-là, il a sans doute reproduit le même schéma. Vous restez avec moi, on se retrouve dans quelques instants.
Merci beaucoup.
Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 3921, 50 centimes la minute.
Et dans cette première partie de la Libre Antenne, nous avons Alissane avec qui nous échangeons ce soir sur l'histoire, leur histoire à tous les deux, elle et son fils. Surtout ce petit garçon qui lui a avoué lorsque son papa a quitté le domicile familial, il y a maintenant 2 ans et demi, que ce père le violentait hein, pas mal puisqu'il lui donnait des coups et que Alissane, vous nous étiez aperçu de rien hein, dans l'attitude de cet ex-mari. Ensuite, en fait, que s'est-il passé? Il a demandé la garde de cet enfant, je suppose?
Oui, il a demandé la garde partagée qui a été refusée parce qu'Hugo avait écrit une lettre au juge. La juge n'a pas voulu le recevoir. Elle n'a pas voulu écouter Hugo. Même la lettre qu'il a faite, il l'a écrit tout seul. Mais bon, après, si on ne croit pas, bon, bref. Après, donc, il a eu la garde classique, un week-end sur deux, la moitié des vacances.
Oui.
Sauf que Hugo n'a jamais voulu y aller. Ça a été le stress absolu à chaque vendredi qui arrivait, malaise vago, cauchemar, je pleure. Donc à chaque fois, c'était on allait chez le médecin. J'ai pas donné mon fils à son papa.
Oui.
Et lui, il a porté plainte. Donc j'ai 18 plaintes qui sont tombées sur moi. Et du coup, je suis arrivée en médiation pénale. Qui ont reçu mon petit garçon, et dans la médiation pénale, elle a forcé mon fils à accepter des rendez-vous avec son papa. Elle a dit qu'elle le croyait pas. En fait, elle les croit pas. Enfin, c'est ça, la justice, en fait, a beaucoup de mal à croire les enfants. Ça se peut aussi qu'il y ait des mamans qui soient manipulatrices ou des papas, hein, j'en suis tout à fait consciente.
Vous, de toute façon, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours, Alissane. Vous savez qu'il y a des adultes, hommes ou femmes, qui sont manipulateurs et manipulatrices. Mais Hugo a le droit de disposer d'un avocat. Est-ce que Est-ce que vous avez demandé un avocat pour lui?
Il en a eu un. Oui. Alors après, la médiatrice, ça n'a pas marché parce qu'on a essayé de faire des rencontres, mais ça n'a pas marché. Donc, il a continué à porter plainte. Et après, il m'a mis les services sociaux qui sont venus voir si mon fils n'était pas en danger. Donc, oui. Ils ont vu que ce n'était pas en danger. Après, je suis passée devant le tribunal des enfants. Après, Hugo a été obligé d'être entendu.
Alors, vous êtes passé pour le tribunal des enfants, pourquoi exactement
Hugo, parce qu'il était en danger avec moi.
D'accord. Parce qu'il était en danger avec vous.
Avec moi, tout à fait. Donc, comme je suis transparente, ils sont venus à la maison, on est passé devant le tribunal, Hugo a expliqué. Et on m'a fait comprendre que ce n'était pas un enfant qui devait décider. C'était moi à lui imposer. Il devait aller avec son père. C'était comme ça. Et j'ai expliqué que j'étais tout à fait d'accord. Un enfant n'a pas le droit, effectivement. Il doit manger, il doit faire ses devoirs, il doit être poli à l'école, il doit aller se laver. Là, je suis entièrement d'accord. Mais quand il y a des peurs et des angoisses qui sont là, non. Je pense que le forcer ou lui imposer, non, il y a quelque chose qui ne va pas dans le système. C'est pas logique.
En tout cas, un enfant, à n'importe quel âge, hein, mais on va dire que on considère qu'à partir de 8 ans, un enfant a le droit d'avoir un avocat si, bien évidemment, l'enfant présente une maturité normale pour un enfant de 8 ans, visiblement. Parce qu'il y a des enfants qui, à 8 ans, sont un peu plus bébés, vous voyez. Donc,
tout à fait.
Mais j'ai cru comprendre, depuis les nombreux témoignages que nous avons reçus ici à la Libre Antenne concernant cette justice familiale, mais surtout, j'allais parler de cette guerre entre parents, parce que ça résume un peu plus les choses pour moi. Même si ça n'est pas pour vous, Alison, mais j'ai compris que les enfants avaient le droit, à 8 ans, d'avoir un avocat. Et surtout, moi, je considère qu'un enfant à 8 ans est un individu à part entière qui, pour certains sujets qui le concernent directement, en tout cas sa vie, là où il doit aller, là où il n'a pas envie d'aller, on peut le laisser... libre de ce choix lorsqu'il est aussi sérieux que celui-là. Après, je me mets à la place du père qui, bien évidemment, fait valoir ses droits de père et qui, visiblement, je n'ai que votre version, visiblement, ne respecte pas vraiment la non-envie d'Hugo de le voir pour l'instant.
Moi, ce que je peux dire, c'est que quand on a un enfant et qu'on met sa maman au pénal, qui est condamnée durement, moi j'ai trouvé que j'étais assez durement condamnée, et qu'après on dit à son fils qu'on voit juste une heure, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, si tu viens pas avec moi, je te mets en maison d'accueil, je repasserai devant le juge pour te mettre en maison d'accueil, je te retirerai de ta maman. Je pense pas que forcément mon futur ex-mari aime son enfant. Enfin, je le conçois pas comme ça. J'ai beaucoup de mal à accepter ce genre de réflexion. Au lieu d'essayer de trouver de la douceur ou de l'amour dans des discours, c'est plutôt que de l'agression, que des menaces et que de l'intimidation.
C'est-à-dire, en fait, si je comprends bien, son père a menacé Hugo.
Oui.
De
après le pénal, en fait, j'ai été obligée de le donner à son grand-père pour qu'il l'emmène au rendez-vous.
Oui.
Et comme Hugo ne voulait pas y aller, maintenant il a 10 ans et demi, il parle très bien, il s'exprime très bien, il sait très bien ce qu'il veut. Il a appelé déjà 4 fois le 119 pour enfants en détresse, enfants en danger, donc il sait ce qu'il fait. Moi, j'ai déjà fait plein d'associations, j'ai écrit à tout le monde, à la justice, à tous ceux que j'ai pu écrire. Et... En fait, maintenant, avec Hugo, on ne sait plus quoi faire. En fait, on est dans une impasse, parce qu'il menace maintenant son fils carrément de le mettre en maison d'accueil s'il ne va pas le voir.
Vous êtes entourée un petit peu, Anissa?
Oui.
Vous avez vos parents?
J'ai une famille adorable et j'ai des amis géniaux.
D'accord. Et vous faites quoi dans la vie, Anissa?
Voyante.
Vous êtes voyante, d'accord. Et
il y a eu... Mais je ne vois pas pour moi.
Non, généralement, c'est inquiétant quand une voyante voit pour elle. Je conseille de changer de voyante.
On est d'accord.
Mais en fait, il y a eu des rapports sur vous, des services sociaux, lorsqu'ils sont venus chez vous.
Les services sociaux, ils vous gardent une heure. Hugo, ils l'ont gardé 1h20. Et ils ont estimé que Hugo racontait un livre et que moi, je mentais. Sauf que la psychologue qui s'occupe d'Hugo depuis 1 an, ou par exemple l'orthophoniste qui s'occupe d'Hugo depuis 2 ans, personne ne les interroge. Personne ne va les voir, personne n'essaye d'avoir des rapports des gens professionnels qui s'occupent de mon fils depuis 2 ans et demi.
Et cet avocat,
que des gens qui nous voient très peu de temps. Bah, les avocats, ils se battent pour nous. Mais vous savez, quand moi, je suis tombée sur 3 juges, il était 20h du soir, avec un dossier de 50 pages, un papa qui avait presque la larme à l'œil et qui n'a pas arrêté de mentir, bah, c'est moi qui ai perdu. Parce que comme c'est moi qui ai la garde, c'est moi qui forcément est la manipulatrice. Et on n'a pas entendu du tout le procès-verbal d'Hugo qui explique tout ce qui s'est passé avec son papa. Alors, ils n'ont pas voulu le lire.
Il explique quoi dans ce procès-verbal qui n'a pas été lu par les juges ?
Alors en fait, ce
qui est assez étonnant, hein, Alison, parce que...
Oui, je suis d'accord avec vous.
Ils ne l'ont peut-être pas lu à l'audience, mais cela m'étonne énormément que les juges ne l'aient pas lu, en tout cas n'en aient pas pris connaissance. Qu'est-ce qui vous fait dire
Ils ont dû en prendre connaissance rapidement, parce que 20 minutes pour faire une condamnation, c'est rapide quand même.
D'accord. En 20 minutes, vous avez été condamné à quoi ?
J'ai été condamnée à 2 ans de mise à l'épreuve, 10 mois de prison avec sursis et une thérapie.
Là, je vous mets en garde sur la suite. Vous savez ce que peut vous réserver la suite.
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je n'emmène plus mon enfant voir son papa. C'est le grand-père qui l'emmène.
D'accord. Mais ça ne change pas grand-chose, ça, que le grand-père l'emmène.
Si, parce que moi, je ne dois pas être là à empêcher mon enfant, parce que c'est ça qu'on me reproche.
Ah oui, d'accord.
On me reproche d'empêcher mon enfant d'aller avec son papa. D'accord. Donc moi, je le donne au grand-père et après, on va à un rendez-vous et évidemment, bah, ça ne se passe pas bien.
D'accord. Si je comprends bien, lorsque son grand-père emmène Hugo,
il ne veut pas rester.
C'est la même réaction que lorsqu'il est avec vous, sauf que là, on ne va pas vous accuser d'avoir manipulé Hugo.
Voilà, c'est la seule chose que j'ai fait jusqu'à maintenant pour me protéger, moi. Je ne peux pas faire autre chose. À part écrire au président de la République, j'ai écrit au ministre de la Justice, au ministre des droits de la femme, des droits de l'enfant, à 3 associations, au président de la République, à Brigitte Macron. Je crois que j'ai presque tout fait. Mais je ne lâcherai pas, par contre. Je ne lâcherai pas parce que l'enfance de mon enfant est très importante. Il travaille très bien à l'école, il a ses copains, il est bien, il est heureux. J'ai pas du tout envie que toute son enfance soit gâchée pour un truc pareil.
Bien sûr.
Et donc c'est pour ça qu'en fait, mon témoignage, c'était surtout aussi pour les mamans et les papas qui se battent. Faut pas lâcher.
Ouais.
Faut se protéger, mais faut pas lâcher.
Mais comment est-ce que vous arrivez à vous protéger aujourd'hui ? Parce que Hugo, donc, voit quand même son père. C'est revenu à la garde partagée non. du début ?
Non, pas du tout. D'accord. Non, en fait, on a des endroits. Ils vont dans des endroits. Et il reste une heure où mon fils est derrière son grand-père et dit « je veux partir ». Donc le grand-père essaye de « tu veux pas rester ? Est-ce que tu veux qu'on mange ensemble, tous les trois ?» Et c'est un non catégorique.
D'accord.
Et j'ai moi. Et mon fils reste avec, pour pas que j'ai de problème, il reste toute la journée avec mes parents.
D'accord.
Comme ça, moi, on
j'ai
peut
bien
pas m'accuser de... Voilà.
Et en fait... Hugo, aujourd'hui, il dit quoi ? Il dit qu'il a peur de son père ?
Ben, c'est même pire aujourd'hui. On a tellement fait de la manip... Enfin, on s'est tellement acharné sur lui, pour moi, hein, parce qu'il est passé devant tellement de monde,
oui.
qu'à l'heure d'aujourd'hui, il n'aime plus son papa, il ne veut plus jamais le voir, et il veut changer... Enfin, il l'a mis dans une case, et il m'a dit, c'est terminé. Il a perdu... Ah, voilà, la phrase de mon fils aujourd'hui, c'est, il a perdu mon amour.
D'accord. Et vous, Alison, vous qui avez 48 ans et qui êtes, je l'entends, une femme intelligente, êtes-vous vraiment sûre que ce choix-là d'Hugo, même si on le respecte, hein, je vous le disais,
mais
est-ce que vous avez eu cette discussion avec lui sur le fait que un père et tout ce qu'il apporte à un enfant, alors bien évidemment, pas des tartes et pas des coups, hein, on est d'accord.
Mais on est bien d'accord.
Est-ce que vous avez tenté d'être un peu médiatrice ?
On a beaucoup discuté.
Ouais.
On a beaucoup discuté. Bien sûr, depuis 2 ans et demi, maintenant, on discute. Je me lance pas dans une bataille si j'ai pas tout compris. Mais comme Hugo s'est tellement bien exprimé devant tout le monde déjà,
ouais.
ainsi que le 119, parce qu'il a parlé plus d'une fois où la dame, je l'ai au téléphone en me disant « votre fils, il est déterminé ». Et vu ce qu'il a vécu, il n'a pas envie de le revivre.
Moi, ce qui me fait peur, je veux dire, ce qui me fait peur...
En fait, nous, vous savez, ce qu'on demande depuis le début, c'est un médiateur dans un endroit neutre, Mais c'est refusé par la justice.
Mais il n'y a pas ça, en fait, lorsqu'il a les visites avec son grand-père d'une heure, là, il y a simplement quelqu'un pour surveiller,
en fait.
Non,
pour l'instant, c'est dans un lieu public.
D'accord.
Non, la justice n'a pas voulu.
Ce qui veut dire que pour l'instant, la justice a mis donc un droit de visite, enfin même pas un droit de visite.
Non, on est resté en fait sur le juge des affaires familiales, un divorce classique.
Donc,
qui ne s'effectue pas en fait.
D'accord.
On n'arrive pas, on ne peut pas le faire. Et là, on doit repasser devant le juge des enfants et Hugo a écrit une lettre au tribunal des enfants pour être entendu pour la deuxième fois, pour expliquer tout, parce que la première fois, elle a été très rapide. Et j'ai dit à Hugo, il ne faut pas que tu sortes du bureau tant que tu n'as pas fini tout ce que tu as sur le cœur et tout ce que tu as envie de dire.
Donc, une nouvelle audience est prévue pour bientôt?
Oui, pour, je pense, début de l'année, j'espère.
D'accord.
J'espère pour mon fils, oui.
Et il sera assisté d'un avocat, là?
Non, il ne veut pas. Il ne veut plus parce qu'il en avait un déjà. Il veut son grand-père.
D'accord. Bon.
Il a demandé son grand-père.
Écoutez,
je trouve ça très bien.
Souhaitons, en tout cas, on a bien compris les tenants et les aboutissants de votre histoire. C'est vrai qu'on peut être partagé entre l'envie de respecter les droits de l'enfant et surtout les droits d'un enfant qui revendique justement cette situation d'être un individu à part entière. Tenez-moi au courant début janvier, j'aimerais bien que vous me disiez comment ça s'est passé et qu'on évoque encore, Alison, votre histoire avec Hugo. En tout cas, transmettez-lui tout le courage qu'il faut pour affronter une situation pareille. Et puis, à vous aussi. Et puis, pas de bêtises, parce que vous savez... on a...
Oh là là, non, hein, vous inquiétez
bon,
pas.
Vous paraissez...
Parce que si je suis en prison, je pourrais plus l'aider.
Bon, ok. Donc, c'est ça ce dont j'avais peur. Vous avez bien la tête sur les épaules. Mille merci, Alison, et bon courage
merci
à tous les deux.
Merci à vous de m'avoir écouté.
Je vous en prie. Bonne soirée.
Merci
au revoir.
Beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.
Vous aussi, laissez votre message à Olivier Delacroix au 739 21. 75 centimes plus coût du SMS.